Tauberbach, Attentat, Parker, Troyes, Murmure des murs et plusieurs autres. Du 21 mai au 7 juin, je vous invite à vous laisser surprendre, ravir, émouvoir. Bon festival!
Voix aux multiples couleurs et instruments d'époque. La musique ancienne, un foisonnement de sonorités. Continuo, un rendez-vous avec l'émotion. Le dimanche, de 9h à midi, à CKRL, une invitation de Denis Grenier.
Cette émission vous est présentée par Avatar, centre d'artistes spécialisé dans la recherche, la création et la diffusion d'art audio et électronique.
Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la Croche-Oreille. Gaétan Gosselin et Jean-Pierre Guy avec vous. Ce que vous venez d'entendre, c'est une œuvre de Camille Bernard Gravel qui est avec nous ce soir et qui s'intitule « Construire la pluie ». Donc, nous recevrons en première demi-heure Camille, mais nous aurons aussi en deuxième demi-heure les lauréats d'un concours auquel CKRL est associé et qui s'appelle « Faites court », où il y a des artistes qui ont produit des œuvres sonores dont on vous parlera en deuxième demi-heure, mais également, il y aura un topo de Gaétan. Gaétan, tu vas nous parler de Marianne de Renaud.
De Marlène.
Marlène Renaud, oui.
Marlène Renaud B.
B.
pour être plus précis, et d'une exposition qui s'intitule Rock, je vais dire ça comme ça, qui est présentée chez Engramme jusqu'au 7 juin, je le dis, parce que c'est une exposition extrêmement intéressante, et puis ben, c'est l'occasion d'aller voir l'exposition de Camille et ensuite de Marlène.
Oui, parce que Camille, bonsoir Camille.
Bonsoir.
Parce que ton exposition, elle est à l'œil de poisson dans la petite galerie. Elle est là jusqu'au 7 juin également, donc un peu comme tout ce qui se passe dans Méduse. Il y a une rotation à un moment donné en même temps. Camille, tu es une artiste en art sonore qui fait de l'installation vidéo et tu es finissante de tes... Fini l'an passé à l'Université Laval, tu as reçu plusieurs prix, la bourse René Richard, le prix Avatar, le prix de la bande vidéo, le prix Tombé dans l'œil, qui t'a permis justement de faire cette résidence et cette installation qui est là jusqu'au, donc comme on le disait, jusqu'au 7 juin. Cette installation s'appelle Éole. Hein, c'est, puis je pense que c'est pas banal qu'elle s'appelle Éole, parce que Éole, c'est le dieu du vent.
Oui.
Le vent, c'est un grand élément de la nature, et tu t'intéresses beaucoup à la nature.
Oui, ben l'extrait qu'on a écouté au début de l'émission, c'était un extrait de mon installation « Construire la pluie
mm-hmm. ».
Puis Éole et « Construire la pluie » partent de la même idée d'interpréter un phénomène naturel et de le recréer dans un espace d'exposition. Puis le son de ces phénomènes-là, qui sont le vent et la pluie, je crois que c'est des sons qui sont plutôt semblables parce qu'ils dépendent des objets qui nous entourent. Le son va changer en fonction du lieu où on est.
Mm-hmm.
Donc, le souffle du vent frappe sur différents objets, tout comme les gouttes de pluie qui tombent sur différents objets et qui créent un son en fonction du lieu où on est. Donc, c'est ça l'idée de ces deux expositions-là. Puis aussi, ça s'est modifié en fonction du vent. C'est certain que ça n'a pas donné le même résultat du tout que la pluie. Là.
On ne parle pas de la même chose.
Oh, oui, c'est ça. C'est deux phénomènes très différents.
Mais parlons de l'exposition Éole,
qui
est celle qui est à l'œil de poisson, dans la petite galerie. Tu as investi de façon monumentale. En tout cas, moi, ça fait une dizaine d'années que je parcours les arts visuels puis que je croise, entre autres, ce qui se passe à l'œil de poisson. J'ai rarement vu un investissement aussi majeur de la petite galerie, qui est une toute petite galerie en hauteur, et tu as réussi à utiliser tout l'espace, incluant évidemment l'entrée, mais aussi la hauteur de ça. En faire même un deuxième étage, voire un étage intermédiaire. Explique-nous comment est venue cette idée d'utiliser au maximum cette petite galerie.
Pour revenir à l'idée du dieu du vent, là, c'est vrai que j'avais pas totalement répondu à la question. J'avais l'idée d'appeler ça Éole comme le nom du dieu du vent parce que je trouve que c'est un peu comme essayer de reproduire des phénomènes qui sont d'un ordre supérieur à l'homme, qui pourraient être de l'ordre d'un dieu. Mm-hmm. Puis je voulais que les spectateurs puissent se mettre dans cette position-là de pouvoir recréer le son du vent à partir de la console qu'on trouve dans la partie inférieure de la galerie. Puis ensuite, qu'ils puissent aller voir dans la partie supérieure de la galerie quels objets ont créé le vent. Qu'ils ont créé.
Donc, en fait, de se retrouver dans l'atelier de Dieu, quelque part.
Si on veut, dans l'atelier de je sais pas qui serait la force supérieure, là. Pas nécessairement un Dieu, là. Je veux pas nécessairement associer ça à quelque chose de spirituel.
Mais il y a une préoccupation dans ton travail de montrer ce que tu fais.
Oui.
Parce que dans le fond, quand on pourrait au plan sonore, si on voulait être face à une installation sonore, on pourrait se contenter de ce qui se passe dans le poste d'écoute, en quelque sorte, en bas, puis d'entendre des imageries du vent, hein, quelque sorte d'interprétation du vent. Mais toi, tu fais plus que ça. Tu nous amènes à monter un escalier, à aller dans un étage intermédiaire et à voir comment, en haut, il y a toute une série de dispositifs qui permettent de produire les phénomènes qu'on entend en bas. Donc, tu vas plus loin que juste nous les faire entendre. Tu nous fais voir la production du vent.
Oui, aussi, je trouvais ça important qu'on puisse voir quels objets ont créé le son du vent. Parce que quand on est dans la partie inférieure, on voit pas les objets qui bougent. Puis on peut entendre un son et l'associer à un autre son que ce qui est celui qu'on entend réellement, puis celui de l'objet qui est en haut. Puis je pense que le décalage qu'on a avec cette façon que l'espace est construit est important pour jouer sur la perception des sons, parce que quand on voit quelque chose puis qu'on l'entend, je crois que le visuel prend souvent une très grande part, peut-être même une part plus importante que le son finalement qu'on entend.
C'est le paradoxe d'une artiste qui travaille en art sonore. Est-ce que tu te définis comme une artiste sonore ou comme une artiste multidisciplinaire?
Je me définis comme une artiste multidisciplinaire. Là. J'ai jamais fait une œuvre exclusivement sonore. Il y a toujours quelque chose de visuel, mais je pense beaucoup au son. Puis souvent, quand je commence à penser à un projet, ça arrive que je pense seulement qu'au son. Puis après, je vois, qu'est-ce que je pourrais faire pour créer ce son-là, comme Construire la pluie et Éole, c'en est deux exemples.
Bien, on pourrait peut-être parler de la pièce titre de ça qui s'appelle Éole. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que tu veux nous montrer là-dedans?
Montrer?
Non, montrer ou nous dont tu voudrais nous parler au sujet de cette pièce qui s'appelle Éole. Non? Bon, on va l'écouter tout simplement.
Parfait.
Alors, on écoute, Gaëtan, la pièce numéro 2, Éole. Ah non, qui s'appelle 4 sur 5, en fait.
Ah oui, d'accord, 4 sur 5, je l'avais nommé 4 sur 5, là. C'est pas vraiment une pièce sonore que j'ai composée, c'est les sons qui sont issus de Éole, de l'installation. Okay. Puis il y en a 4 sur 5 parce qu'au moment de l'enregistrement, j'étais pas prête à enregistrer le cinquième qui était les herbes qui bruissent sous l'effet d'un électroaimant, mais on a quand même l'aperçu de 4 des 5 sons qui sont créés par des objets qui bougent dans la partie supérieure.
Et pour lesquels, il y a 5 boutons.
Oui, hein, on entend...
Qu'on peut actionner. Puis là, en actionnant ces 5 boutons-là, on augmente le volume d'un des 5 systèmes qui est développé en haut.
Oui, en fait, on n'augmente pas le volume. Quand on pèse sur un bouton,
on pèse
ça dessus. Active le moteur, mais les micros captent toujours du son.
Ah, mais vois-tu, en tout cas, ça vaut vraiment la peine. Moi, j'ai... Hey, Gaétan, ben, je pense qu'il faut aller voir une installation comme celle-là parce qu'on est... Et surtout, allez-y avec quelqu'un. Quelqu'un qui va être en bas, qui va actionner des pitons, puis nous, on va être en haut, puis on voit un peu comment ça se passe.
Écoute, c'est une installation qui est assez performante, je vais dire ça comme ça. Et moi, elle m'a fait penser, il y a tout un processus de démystification à certains égards, parce que bon, il y a une mécanique cachée, et puis on nous invite à aller la voir en montant les escaliers. Et il y a un beau parallèle à faire avec le monde de la photographie, quand on parle de l'arrière du décor. Donc, évidemment, il y a toujours un dispositif qui est patenté et qui fait qu'à la prise de vue, on ne voit pas, je dirais, ce qu'il y a derrière le décor, on ne voit pas le dispositif, les ficelles qui tiennent toute la scène quand on parle de la photographie. Puis en photographie aussi, on est dans un axe horizontal. Et dans le travail de Camille, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans un axe vertical. Alors là, le décor n'est pas derrière, le décor est au-dessus. Et quand on monte les marches graduellement et qu'on voit, là, il y a quelque chose tout de même d'assez singulier dans le travail, c'est que il y a une coupure, il y a un écran, il y a un mur de verre, et tout l'univers est dans un mur de verre. Et ça, c'est encore là il y a un accès qui nous est un peu interdit.
Oui.
Et c'est ce qui fait que c'est un dispositif qui est très 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 évocateur, très mystérieux, surtout sur le plan de ce qu'on peut imaginer en bas et ce qu'on regarde et puis on imagine en haut, parce que on voit pas tout le stratagème nécessairement. Et Camille, dans le fond, la question, pour arriver à une question, c'est est-ce que c'est le fruit du hasard d'avoir, ou si c'est conditionné par l'espace, ou le fruit du hasard que d'avoir disposé l'arrière du décor au deuxième étage?
Je crois que si j'avais eu accès à une galerie très grande et à un plafond plus bas, c'est certain que j'aurais pas fait ça, mais j'étais quand même très contente d'avoir trouvé cette solution-là. Puis c'est venu, j'ai pas eu cette idée-là dès le départ quand j'ai pensé au projet, mais j'ai trouvé que c'était une bonne solution finalement, puis je suis contente de l'avoir faite. Pour en revenir à la fenêtre, ben je la compare, oui, à une espèce d'écran de télévision ou à un cubicule de voiture. Quelques personnes m'ont dit que ça pouvait ressembler à un cockpit d'avion, parce que c'est souvent on est en voiture puis on voit les choses autour de nous, mais on n'entend pas les sons, puis on est un peu coupé quand on est dans la maison aussi des sons extérieurs. Puis je crois que ben on les entend aussi, ces sons-là, par l'entremise de haut-parleurs assez souvent, par le cinéma. Puis les sons qui sortent des haut-parleurs sont pas les mêmes, ils sont un peu modifiés, sont différents de ceux qu'on entend dans la réalité. Puis c'est l'idée aussi de ça, la coupure. Parce que c'est un peu paradoxal d'être assis à côté des objets qui bougent, mais de pouvoir les entendre seulement que par des haut-parleurs.
Ouais, puis de rendre le dispositif inaccessible aussi, ça en fait un mystère augmenté pour le spectateur, et ça insère une sorte de doute aussi, parce que bon, on aimerait ça là environner, s'approcher de cette affaire-là, mais il y a une mise à distance, et là il y a une mise à distance qui fait que la représentation existe, je dirais, à certains égards.
Ben moi je propose qu'on écoute pour passer un petit peu plus loin dans ton travail, qu'on écoute White Test. En passant, les titres, Camille, hein, c'est des titres que tu, juste pour te retrouver, là, que tu as mis là, ça veut pas dire grand-chose. Mais parle-moi de White Test. Qu'est-ce que c'est que ça?
Je l'ai appelé White, mais en fait, c'est le bruit blanc que je voulais nommer.
Okay.
Parce qu'en anglais, c'est le white noise. Mais le bruit blanc, c'est un bruit qui est plutôt... difficile à décrire, qu'on entend un peu tout le temps, je trouve, là. Mm-hmm. Puis qu'on peut entendre dans des enregistrements qui sont de plus ou moins bonne qualité, mais aussi quand on est à l'extérieur puis qu'on entend des voitures au loin, quand on entend les arbres, des feuilles qui bougent, qu'on entend un peu partout, quand on entend une chute d'eau qui coule. Je trouve que ça fait un bruit de white noise ou de bruit blanc, là, appelez-le comme vous voulez. Puis c'est ça.
Mais on va l'écouter. Dans un tout autre ordre d'idée, Camille, tu as eu l'occasion, dans le cadre de ton bac, mais aussi après, de vivre diverses expériences, que ce soit là où on s'est connus, nous, dans l'échange entre certains étudiants de l'Université Laval et la Villa Arson à Nice, mais tu es aussi allé en Argentine, tu viens de profiter d'une résidence d'Avatar. Comment ces expériences-là t'apporte quelque chose de plus dans ton travail? Qu'est-ce que ça a amené de plus pour en venir à réaliser ce que tu as le goût de faire?
C'est certain que les résidences m'ont... j'ai toujours besoin de parler aux gens puis de discuter de mes idées avec les gens pour être capable de faire évoluer mon projet. Je peux le faire par moi-même sans parler aux gens, mais j'en ai besoin, on dirait. Mm-hmm. Puis les résidences m'ont aidé pour ça. Puis pour ce qui est des résidences à l'étranger, je pense que j'étais très contente de les faire parce que j'ai toujours le goût de faire quelque chose qui est près des gens puis qui serait peut-être éventuellement plus en lien avec la communauté pour certains projets que j'ai en tête. Puis ça m'a alimenté de ce côté-là d'aller à l'étranger.
C'était Blanche Plastic Noise, non?
Oui, c'était ça. C'était okay. Blanche Plastic Noise, qui est encore un extrait de mon installation. Cette fois-ci, c'est le mélange du bruit blanc et de quelques objets qui bougent qu'on a entendu.
Parlant d'objets qui bougent, j'aimerais ça te ramener à l'exposition des finissantes. À laquelle tu as été, où tu t'es retrouvé comme gradué, t'as donné une belle petite... Moi, Gaétan, tu la vois, c'est une tige de blé en fer,
En fer et en plastique.
En fer et en plastique.
Oui.
Et tu donnais ça à ceux qui allaient voir ton installation. Il y a dans ton... Puis, tu sais, tu parlais, t'as besoin de toucher les gens, de parler aux gens... dans ton installation lorsque tu étais finissante à l'Université Laval, il y avait une espèce de dispositif où on voyait, il y avait comme une sorte de cage où on voyait ce qui se passait à l'intérieur de quelque chose, mais tu ouvrais la porte aussi pour qu'on puisse y aller. Puis c'était un peu, je dirais, pas le même dispositif, mais un peu le même esprit dans ce que tu viens de faire. Tu sais, on voit ton travail, mais en même temps, on peut aller voir, on voit le résultat de ton travail, puis on peut aller voir comment c'est produit. Puis il y a aussi ce petit papier que tu donnes aux gens. Dites-nous, comment vous qualifieriez, comment vous nommeriez le vent, ce que vous venez d'entendre, ce vent-là, et vous leur demandez, tu lui demandes de mettre ça dans une boîte. Donc, il y a une préoccupation du public, des gens qui vont voir ton travail. Ça, c'est en quoi c'est si important que ça? Parce que c'est assez singulier. C'est rare qu'on voit ça dans les pratiques artistiques actuellement.
Je trouve ça difficile, peut-être, de répondre parce que... je verrais pas comment faire autrement parce que j'ai besoin. C'est un besoin peut-être plus que une volonté de d'être près des gens. Puis aussi l'idée de donner la petite branche de blé fabriquée en métal et en plastique, c'était de garder de laisser un souvenir, de laisser une trace aux gens qui ont peut-être marqué mon parcours pendant que j'étais au bac.
Camille, dis-moi, on a un peu l'impression qu'il y a une performeuse qui est derrière. Donc, ce geste-là de remettre, il y a comme quelque chose qui tient aussi de la performance. Et en naviguant sur ton site, j'ai pas vu de projet de performance en tant que tel, mais est-ce que c'est quelque chose qui est dans le collimateur pour toi d'avoir un travail performatif éventuellement?
Je dirais que j'ai aucun médium ou aucune pratique qui n'est pas dans le collimateur.
Tout est possible.
Donc,
tout est possible, c'est ça. Ouais. Mais j'ai pas de projet de performance qui vont venir bientôt de prévu, mais c'est pas exclu de mes projets futurs.
J'avais quelque chose moi qui m'intéresse quand on voit l'installation qui est à l'œil de poisson, puis les travaux que tu as fait tout de même. Il y a une combinaison de savoir-faire qui est assez impressionnante. Puis j'étais un peu curieux de savoir comment t'établis le plan de match au départ, une fois que tu es sur une idée. Comment tu travailles ça, concrètement?
OK. Si je donne l'exemple de EOL, le projet dont on parle le plus présentement, c'était un projet, oui, assez ambitieux côté technique pour une personne seule. Puis c'est certain que la résidence à Avatar m'a permis d'explorer le son puis d'avoir des bons conseils sur quel micro utiliser, quel speaker, puis comment disposer tout ça. Après, j'ai un très bon technicien qui en fait est bachelier en génie mécanique qui m'aide pour le côté électronique. Puis c'est pas le premier projet pour lequel il m'aide. Puis pour le côté fabrication, tout ça, c'est certain que j'ai été à l'œil de poisson aux ateliers pour fabriquer tout ça. Puis j'ai dû faire des plans assez précis en modélisation 3D pour réussir à tout faire en temps parce qu'il y avait aussi le temps du montage qu'il fallait que je compte. Donc, il y a plusieurs éléments techniques que j'apprends toujours de plus en plus. Je sais un petit peu programmer, mais pas beaucoup. Mais j'ai quand même une base pour être capable de comprendre les gens qui programment quand ils me parlent d'un problème. Ouais.
C'est une belle illustration, sans faire de longues théories, de ce que c'est le travail multidisciplinaire ou interdisciplinaire.
Oui.
Ça, c'est vraiment une belle illustration quand on voit le travail de Camille.
Oui, parce qu'il y a à la fois de la menuiserie dans ton travail, il y a de l'électronique, il y a du son, il y a, tu sais, c'est vraiment, on est à la, ça demande beaucoup de, à la fois de toi-même ou d'aller chercher des ressources pour faire ça. Tu sais, moi, je pense à ton installation à l'œil de poisson. Je sais pas si jusqu'où toi tu t'investis comme menuisière, là, mais il y avait un travail entre autres de menuiserie dans tout ça. Il fallait que ça se tienne, il fallait que ce soit sécuritaire.
Oui, le travail de menuiserie, c'est entièrement moi.
Ben, tu sais, on pense pas souvent que c'était cet aspect-là, mais c'est un aspect important dans le travail de rendre accessibles les choses, puis de physiquement qu'elles puissent nous être accessibles comme spectateurs. Il nous reste à peu près une couple de minutes. Parlons donc du futur, parce que ça, c'est bon. On va rappeler tout de suite que c'est jusqu'au 7 juin. C'est à l'œil de poisson. C'est dans la petite galerie. C'est tout en entrant. Puis ça vaut la peine d'aller faire un tour là, puis de prendre le temps. Puis moi, je conseille souvent aux gens d'y aller à deux, tu sais, un qui actionne les boutons, puis l'autre qui voit en haut comment ça se passe, puis on se parle. Ça aussi, ça incite au dialogue. J'avais pas
vu. Oui,
oui. Alors, tes projets, qu'est-ce qui s'en vient pour toi?
Plusieurs projets. Bientôt, en septembre, j'irai à Bangkok. J'ai été sélectionnée pour aller à Bangkok avec sept autres artistes de la ville de Québec pour faire un projet d'échange qui se terminera par une exposition. Puis ensuite, j'ai un projet dont je ne peux pas parler.
Mais qui dit échange, ça veut dire que les gens de Bangkok vont venir ici après?
Il y aura des gens de Bangkok qui viendront. Je suis moins au courant pour l'instant de cette portion-là. Puis,
toi, là-bas, as-tu déjà une idée de ce que tu vas aller faire là-bas ou tu vas le faire en fonction du site qu'on va te proposer?
J'ai une idée du projet que je vais aller faire, justement. C'est un projet qui est inspiré d'un projet que j'ai fait précédemment qui s'appelle Évier.
On en parlait avant l'émission, justement.
Puis le projet Évier, je l'ai fait à partir d'Évier. Puis aussi de petits cadrans, des cadrans qui marquent le temps, là,
Passe à faire des ordres, à faire des tâches ménagères.
Peut-être, à faire toutes sortes de choses. Puis j'avais installé des petites ampoules à robinet, qui sont des instruments de chimie qui laissent goûter de l'eau goutte à goutte, puis réglées à différents rythmes. Eh bien, ces gouttes qui tombaient dans les éviers faisaient des sons différents parce que les éviers étaient différents. Mm-hmm. Puis ça marquait un peu le temps de l'homme et versus le temps imaginaire qu'on trouve des fois élastique ou des fois qui passe trop vite ou trop lentement.
Ben écoute, Camille, c'était un très grand plaisir de te recevoir ce soir ici. On espère que ça va bien se passer à Bangkok, mais on a surtout très hâte de te revoir t'installer quelque part dans la ville de Québec. Et en tout cas, moi, je rappelle aux gens que ça se passe à la petite galerie, à l'œil de poisson, qui est dans Midiou. C'est une belle occasion d'aller voir quelque chose d'accessible, d'intéressant et de ludique aussi, quelque part en même temps. Et donc, dans Midiou, jusqu'au 7 juin. Et on va se laisser, Gaëtan. Ah, je rappelle le site Internet. Je dis que tu as un site Internet qui s'appelle www.camillebernardgravel.com et vous pouvez voir toutes les œuvres de Camille. Gaëtan, tu as eu l'occasion d'aller faire un tour sur ce site-là.
Oui, alors, je vais donner des titres d'installation qui sont assez. Alors, encore là, j'utilise le mot mystérieux parce que il y a une métaphore qui est très liée à des objets usuels et ça nous amène dans une zone de l'imaginaire qui est très 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 stimulante. Et je pense entre autres à Champ de blé, qui est une installation à la fois simple et magnifique. Je pense à la machine à pluie aussi, qui est un beau dispositif là aussi. Il y a une simplicité dans la construction des installations avec des objets relativement usuels, et puis un rendu visuel, puis un rendu sonore qui est très séduisant, entre guillemets, séduisant au sens où il y a une facture tout de même. Camille, qui est une jeune artiste, il y a une facture tout de même qui est très rigoureuse, et ça, ben c'est prometteur. Je vais dire ça comme ça, c'est très prometteur.
Merci beaucoup.
Ben, écoute, on va écouter Évier, Gaëtan, pour se laisser avec Camille. Alors, on s'écoute avec Évier. Merci beaucoup, Camille Bernard Gravel.
Merci.
CKRL 89.1.
Écoutez tous les lundis 18h30 l'émission de littérature Les bouquins d'abord. Cette émission vous est présentée par la librairie Pantoute. Fondée il y a plus de 40 ans par des passionnés du livre, la librairie Pantoute n'a jamais cessé de grandir pour devenir l'une des plus importantes librairies de fonds au Québec. Avec maintenant 2 succursales et plus de 50 000 titres en inventaire, Pantoute vous offre une grande diversité de livres. Romans, essais, BD, jeunesse, poésie, théâtre. Des livres qu'on ne trouve pas nécessairement ailleurs. Pantoute, c'est aussi une trentaine de libraires qui lisent, se renseignent, mais surtout vous écoutent et vous informent judicieusement. LibrairiePantoute.com, un service conseil reconnu depuis 1972 et des milliers de livres testés sur des libraires.
C'est peut-être de la chance, mais j'ai retrouvé ma tête dans une erreur de ciment, dans les chemins de serviette.
Panorama, le nouvel album de Tire le Coyote.
Et je veux que ton pouvoir me surprenne encore.
Ne manquez pas Tire le Coyote en concert spécial avec invité au Grand Théâtre le 5 décembre. Billets en vente maintenant.
Ici Marie Gignac, directrice artistique du Carrefour international de théâtre. Parmi le meilleur de la création théâtrale actuelle, nationale et internationale, j'ai choisi pour vous des spectacles qui célèbrent la vie. Tauberbach, Attentat, Parker, Troyes, Murmure des murs et plusieurs autres. Du 21 mai au 7 juin, je vous invite à vous laisser surprendre, ravir, émouvoir. Bon festival!
Cette émission vous est présentée par Avatar, centre d'artistes spécialisé dans la recherche, la création et la diffusion d'art audio et électronique.
Alors, deuxième demi-heure de la Croche-Oreille, toujours Gaétan Gosselin et Jean-Pierre Guay avec vous. Nous allons amorcer cette deuxième demi-heure avec un concours auquel le CKRL a été associé. C'est Tania Beaumont, directrice de la programmation à CKRL, qui a eu à assumer cette collaboration de CKRL. En fait, faites court, c'est un concours habituellement de nouvelles qui est organisé depuis 15 ans. Par l'Université de Rennes 2, et auquel, à chaque année, ils invitent des participants d'autres universités. Et pour l'édition 2015, ben, l'Université Laval a été associée justement à l'Université de Rennes 2 pour faire un concours de nouvelles auquel était associé cette année un concours de création sonore. Alors, ce que nous allons vous présenter ce soir, ce sont les 3 gagnants. Parce qu'il y avait des gagnants du côté français, 3 gagnants du côté français, 3 gagnants du côté québécois. Et le thème qui était proposé, autant pour les nouvelles que pour les créations sonores, c'était la métamorphose, qui est évidemment un thème tiré de l'œuvre de Kafka. Et la phrase qui était le point de départ des créations tant sonores que des nouvelles, c'était celle-ci. Un matin, au sortir d'un rêve agité, Grégoire Samsa s'éveille, transformé dans son lit en cancrella. Donc, c'est la phrase initiale de Kafka, la métamorphose. C'était donc à partir de ça que les élèves des deux universités étaient appelés à écrire quelque chose et qui devait être court. Il y avait une norme en bas de 5 minutes dans le cas des œuvres sonores. Alors, ce que nous vous présentons ce soir, ce sont les 3 gagnants côté québécois, parce qu'il y a eu des gagnants du côté de la France, mais on vous présente ce soir les gagnants du côté québécois en commençant par Drago Chiriac, qui nous présente une œuvre qui s'intitule « Ghostly Kisses ». Attendez que je m'y retrouve dans mes papiers. Et tout ça a été fait à partir... Écoutez, je vais vous faire grâce d'un long poème que que Dragas a écrit. Il est étudiant, lui, à la faculté de musique. Il a un doctorat en musicologie en deuxième année. Donc, cette pièce-là est un peu comme l'aboutissement d'un oiseau qui se transforme en toutes sortes de choses, d'où l'idée de la métamorphose. Alors, on vous propose, pour commencer, cette pièce de Ghostly Chiriac qui s'intitule « Ghostly Kisses ». C'était Dragos Chiriac, donc un des deux deuxièmes ex aequo, une œuvre qui s'intitulait Ghostly Kisses, et j'oublie son titre complet parce que c'était le titre complet était Feet.Odile. On enchaîne avec le deuxième ex aequo, qui s'appelle Luciano Gamma Braga. Lui, il est à la faculté de médecine au département de biologie moléculaire, biochimie médicale et pathologie. Il a une maîtrise en biologie cellulaire et moléculaire, il est en première année. C'est en quelque sorte le Jacques Ferron, je pense, de l'art sonore. Tu sais, Jacques Ferron, qui était un grand médecin, un médecin, en fait, familial, mais qui était aussi un immense poète québécois. Peut-être que Luciano va être un jour l'artiste sonore et médecin de son département.
On lui souhaite.
On lui souhaite. Parce que cette pièce, c'est son inspiration, puis là, on voit le médecin, en tout cas, du moins celui qui se destine à ça. Son inspiration, c'est le mégot de cigarette qui est de son voisin. Il sentait chez lui le phénomène éphémère et doux, comme tous les autres phénomènes, qui, à la fin, se transforme et nous tue. Donc, lui, il a pris la transformation du plus simple au plus complexe, donc la cigarette qui tue, c'est clair. Alors, voici donc cette pièce de Luciano Gamma Braga qui s'appelle « Pièce de résistance ». Alors, c'était Luciano Gamma Braga. Alors, voici maintenant le premier, le gagnant, le lauréat, Médée Martineau. Médée, il écrit ça M-A-I-D-E-R. Martineau, il est de la faculté de musique. Il possède, il est en première année à la maîtrise en didactique instrumentale. La pièce qu'il lui a fait mériter ce premier prix est Scordatura. En fait, lui, il a mis de l'avant la pratique, c'est-à-dire l'idée de faire des micros avant un spectacle. Donc, il a fouillé cet aspect-là. Et donc, c'est une habitude un peu paramusicale, mais qu'il a mis de l'avant et qu'il a mélangé à toutes sortes d'autres instruments, comme la vielle à roue, comme la musique traditionnelle et tout ça. Donc, c'est une belle évolution, une belle mutation qu'il nous propose, et dont le titre est justement Scordatura, qu'on écoute et qu'on félicite donc Médée Martineau, ce lauréat de ce concours Faites court, auquel CKRL a participé.
Thank you.
Alors, c'était Médée Martineau, son œuvre Scordatura, qui est l'œuvre gagnante de ce concours Faites court, qui est une association entre l'Université Laval et l'Université Rennes 2, qui a lieu pour une 15e année, dans ce cas-ci pour la première fois de l'Université Laval, et qui a habituellement un volet dont le volet important est la création de nouvelles, mais cette année, il y avait un volet création sonore. Nous sommes donc dans l'art un peu électroacoustique, Gaétan, mais ça rentre bien dans le cadre de cette émission.
C'est une variation dont on est conscient tout de même que c'est plus proche, je dirais, de la musique électro que de l'expérimentation sonore en tant que telle. Mais il reste que c'est d'un intérêt, puisqu'on a des jeunes compositeurs, des jeunes créateurs qui expérimentent, je dirais, avec les nouvelles technologies. Et ça, ben, ça les amène parfois dans l'univers plus abstrait ou plus conceptuel de l'art sonore.
On est encore, comme je le disais dernièrement, avec l'ensemble lunatique, dans cette espèce de zone un peu grise là, entre les deux, du moins du point de vue du rendu, parce qu'il arrive parfois qu'on ne sait trop dans quel des deux univers on est, mais là, on sait que dans ce cas-ci, nous étions dans un univers où les œuvres étaient carrément composées. Gaétan, t'es allé voir, toi, de ton côté, Marlène Renaud-B., Chez Engram, une exposition qui, comme celle de Camille à l'œil, est là jusqu'au 7 juin.
Oui.
Et qui s'intitule...
qui s'appelle Rock.
Rock.
Rock. Rock. Pour le rock. Avec selon qu'on utilise un accent.
Oui.
Donc
le rock qui devient rock.
Rock. Rock parce que c'est une œuvre qui se retrouve chez Engram et qui traite de la matière... de la roche qui nous parle de la pierre, on pourrait même dire de la pierre taillée, parce qu'au fond, on retrouve là une exposition assez inusitée, assez audacieuse, je dirais, de Marlène. Je voulais dire en introduction, il y a un très beau bouquin de Roger Caillois qui s'appelle « La lumière des pierres ». Et dans ce bouquin-là, Roger Caillois, un écrivain, philosophe là, français, très actif, je dirais, dans la période d'après-guerre, qui écrit un bouquin « La lumière des pierres », et où il cherche à découvrir dans la pierre des représentations qui sont le fruit de la nature, donc parfois des paysages qu'on va trouver dans la pierre, tout ça. Et Marlène fait le pont dans son cas. On ne pourrait pas parler de la lumière des pierres, mais de la sonorité des pierres. Alors, chez Engram, le spectateur qui va s'y rendre va retrouver des tables tournantes au sol où le disque est une pierre. Alors, une pierre taillée comme un disque, et on appuie sur une petite pédale. Évidemment, la pédale nous permet de faire varier la vitesse de la pierre qui est sur le tourne-disque.
Et on passe de 33 à 45 ou à 78.
Oui, exactement, ce qui nous permet de faire varier le son qui est émis par une aiguille qui est accolée à un cornet de papier. Alors l'aiguille touche le disque de pierre pour transmettre une sonorité dans le cornet de papier. Évidemment, il y a un procédé d'amplification électronique, mais on retrouve là toute la mécanique rudimentaire du gramophone,
du RCA Victor.
Oui, inventé par Émile Berliner. Oui. Bon, aujourd'hui, je me rafraîchissais la mémoire. Et là, on a une double manifestation, au sens où on a une expérience sonore qui est assez singulière.
Primaire.
Contrairement à ce qu'on souhaite quand on écoute un disque vinyle, par exemple, à chaque écoute, on souhaite que notre original soit intégralement protégé, c'est-à-dire que l'aiguille fasse du bon travail pour ne pas égratigner, perforer le... Alors que dans le travail de Marlène,
c'est le contraire. On n'entend que le grichement.
On entend évidemment le grincement de la pierre, mais on entend le frottement de cette aiguille sur la pierre qui laisse une trace, qui laisse un sillon qui s'approfondit de minute en minute avec la rotation de cette pierre-là. Alors ça, c'est le côté, je dirais, un peu nouvelle techno, si on peut dire, mais on se retrouve tout de même dans un centre qui est dédié à la gravure chez Engram. Alors là, Marlène fait le pont entre, je dirais, les nouvelles technologies et le savoir-faire traditionnel de l'impression sur papier avec les pierres. Donc, ce disque de pierre taillée est utilisé par la suite pour l'enduit d'encre, et elle en a fait des impressions qui sont présentées en salle et qui environnent tout ce dispositif là assez.
C'est fascinant quand même ce que tu dis, parce que dans le fond, c'est comme si un procédé ancien redevenait actuel et redevient une forme d'écriture autre. Donc on part du passé, qui nous ramène à l'avenir. C'est comme si Engram se transformait aussi en même temps pour l'occasion. Là.
Ben, en fin de compte, c'est que Engram nous permet de voir cette transition dans l'univers de la gravure, qui est tout de même un univers un peu comme celui de la photographie, là, qui est lié à un historique.
Des codes
qu'on peut appeler traditionnels, au fond. Les presses servent encore à presser des matrices sur des papiers, les encres demeurent des encres. Mais là, on retrouve dans le travail de Marlène cette expression qui est de plus en plus présente dans le milieu de la gravure, de l'estampe, d'artistes qui font le pont entre les arts électroniques, les arts numériques et les savoir-faire traditionnels de l'impression. Et ça ouvre toute une avenue nouvelle, je dirais, en termes d'imaginaire de l'expression de la gravure, et c'est très suggestif, très fécond comme approche. Et ce travail-là, il est vraiment bien pensé. Là, il y a comme une hypothèse de travail qui est vraiment fascinante.
C'est un beau discours entre le passé et l'actuel et le futur. Tu sais, c'est un échange, une rencontre.
Oui, il y a tout un... En fin de compte, il y a aussi... Bon, on pourrait en parler beaucoup, mais il y a quelque chose qui relève de la temporalité. Il y a un travail sur le temps à travers cette œuvre-là. Je me suis amusé, bon, quand on appuie sur les pédales, il y a un peu le mouvement qui est plus lent, le mouvement qui est plus rapide, c'est la sonorité qui est là, et c'est une exposition à voir chez Engram, sur Côte d'Abraham, dans Méduse, jusqu'au 7 juin prochain. Et puis, on pourrait écouter un extrait de cette installation.
Et on va se laisser là-dessus. Alors, on vous dit merci, mesdames et messieurs, d'avoir été avec nous. Merci, Gaétan. Merci à Camille Bernard Gravel d'avoir été avec nous. Et on vous dit à la semaine prochaine pour notre dernière émission, qui va commencer la semaine prochaine à 20h et non pas à 21h. On aura 2 heures avec vous la semaine prochaine. Bye-bye.
Téléchargez la croche-oreille sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Cette émission vous a été présentée par Avatar, Centre d'artistes de Québec spécialisé en art audio et électronique.
89.1.
Enfin, le Salon de la Passion médiévale.